Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Le supplément week-end ouvre aujourd'hui intentionnellement l'antenne de Radio FMR sur un blanc, afin de marquer les 5 ans de l'explosion de l'usine AZF. Voici le programme de Radio FMR pour la journée du samedi 23 septembre 2006. Dans un instant, vous retrouvez le supplément week-end de Radio FMR, un programme cultureux sur base de bandes dessinées, cinéma, DVD et télévision. Suivi de ça, c'est du sport, les résultats de la semaine, la polémique sportive et une programmation musicale. À 15h, une programmation musicale qui n'est pas précisée. Nos émissions sont en direct sur 89,1 MHz jusqu'à 5h du matin, en continu sur Internet à l'adresse www.radio-fmr.net et l'émission supplément week-end est disponible en podcast et en écoute à la demande sur daskritch.net. Merci de notre écoute, nous commençons le programme. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Ça fait un peu space. Hein.
Oui.
Bon, on devrait arrêter de nous planquer le Velada, je crois que ça ira un peu mieux. Jeudi prochain, Rascal va me demander quel est mon disque qui, pour moi, représente vraiment mes années FMR. Je vais vous le passer pour une fois aujourd'hui. Je pense que ça va être un bon démarrage. Voilà.
Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. The clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Light Elf of the Clouds. Extrait du premier album de The Herb's Adventures Beyond the Ultra World. Un album sorti en 91. Et Thomas, regarde la jaquette. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Ouais, on dirait... Je sais pas, un côté Wipeout peut-être.
Exactement, c'est The Designer Republic. C'était vraiment leurs premiers travaux qu'ils avaient fait justement sur le design de pochette, après avoir fait des travails de flyers et d'illustrations un peu indépendantes. Et
On reconnaît la patte avec les aplats et les formes tout en rondeur, mais très, on va dire très mastoc quand même pour les blocs. Mm. C'est assez particulier, ouais. Mais on voit vraiment les prémices, parce qu'après on voit qu'ils sont allés beaucoup plus loin et beaucoup plus esthétisants. Mais ouais.
Pour ceux qui connaissent pas The Designer Republic, on fait effectivement le design du jeu Wipeout, sauf du tout dernier. Des jeux, voilà. Ils ont aussi fait le logo Gran Turismo, le tout premier. Ah bon. Et les albums de Björk et plein d'autres choses là aussi qui sont à découvrir. Quant à The Orb à l'époque avait été fondé par Alex Peterson et un autre dont j'ai oublié son nom. L'autre, ben, c'est le cofondateur de KLF, s'il vous plaît, qui à l'époque faisait The White Room. Enfin bon, voilà, je suis en plein dedans. Je vous expliquerai ça mieux jeudi, si Rascal me laisse parler.
Et sinon, quoi, tu es à la radio jeudi?
À 18h, des pelures, je crois, je ne sais plus quand exactement. Et sinon, ce sera sur le site web. Il y aura un papier que je vais faire exprès pour ça, parce que j'estime que ça vaut le coup. Pour moi, ça a été le premier disque que j'ai découvert à la radio en tant qu'animateur. Parce qu'avant, j'écoutais pas mal FMR. Là, c'était, j'étais allé à l'époque dans ce qu'on appelait le bunker.
Ouais, c'est trop génial, il y a tous les animateurs que j'aime bien, c'est tout orange.
C'est à peu près ça. Attendant, cette émission était censée être consacrée au printemps de septembre dans la 5e édition et sur les lignes brisées. Ah, peut-être un thème qui exprime bien ce qui s'est passé depuis 5 années. Vous vous souvenez du jour du lancement de la première édition?
Ah, non.
C'était une semaine après le 21 septembre 2001, le jour de l'explosion d'AZF. Les premiers concerts semblaient être des balles tristes, désabusées, vous savez, un peu une ambiance Bunker Palace Hotel, tout le monde était hagard, personne n'avait d'humeur à la fête. Ah, ce jour funeste eut un immense impact sur la vie culturelle à Toulouse. La mairie rendait déjà la vie difficile aux salles de concert, aux groupes. On sentait bien déjà un flottement dans les entrées des soirées quand on organisait, et avec l'explosion, disparu le bikini. La seule salle de concert qui faisait entre 300 et 2000 places capacité. C'est pas rien, hein. 300 places, c'est quand même un peu étroit, et 2000, voilà quoi, c'est le zénith. Résultat, plus de soirées, plus de sorties. Ou alors à au moins 20 km de Toulouse. Peut-être qu'il est temps de ne plus se lamenter. Nous avons eu 5 années de purgatoire et maintenant le bikini revient. FMR fête cette année ses 25 ans d'existence. Toulouse a un nouveau visage. Et le printemps de septembre, on peut l'apprécier ou non, le trouver trop élitiste ou radical, mais au moins il amène l'art moderne dans la rue et accessible gratuitement. Et c'est le seul moment de se l'approprier. Comme le fait par exemple l'association Projet et Matière d'Art en exposant des photos chez les commerçants du quartier des Carmes sous le nom de tirage limité. De manière plus militante avec Mixar Miris, avec leur explosion d'usine qui se consacre justement aux fanzinas, aux indépendants, aux rock indé. Comme l'a fait l'an dernier FMR en invitant le label 19T, un label japonais d'électro expérimental qu'on a eu d'ailleurs sur cette antenne, en concert dans une galerie d'art. Le printemps de septembre est très important pour nous. C'est le moment où l'on voit si notre ville bouge encore. Et puis si ça fait chier la mairie parce que c'est trop populaire et pas assez élitiste, eh ben on la changera en 2007. Je veux parler de la mairie, bien sûr. Oui, nous sommes sur une ligne brisée, mais la cassure est derrière nous. Et il faut continuer notre route, par ailleurs, en regardant devant. Le passé n'est plus, et finalement c'est tant mieux. Je suis content que mon speech n'ait pas été suivi par mes deux collaborateurs qui sont en train de parler de acteurs japonais, de films d'action et de tout le tout. Non. Attends, excuse-moi.
Si c'est John Woo, attends, tu vas pas dire que John Woo est japonais quand même.
J'ai dit chinois.
Non, t'as dit japonais.
D'accord, ok, excusez-moi, ok, je reprends. On y va, Thomas.
Ouais, on va entamer la rue de presse alors.
Ouais, s'il te plaît.
Alors, on va parler du nouveau numéro de Score, le magazine de cinéma, c'est le numéro 22. Et cette fois-ci, il n'est plus à 2 euros, puisque c'est la nouvelle formule. Maintenant, il est à 3,50 euros. Alors, il y a Dupontel en couverture. Justement. Et en fait, ils font du premier maintenant. Et c'est la même, voilà, au revoir l'espèce de supplément culture snack, DVD, jeux vidéo, ils sont intégrés, il y en a moins. C'est tout de suite moins bandant et voilà, donc, c'est assez décevant. Bon, sinon évidemment dedans il y a encore des trucs intéressants, il y a donc évidemment l'interview de Dupontel concernant la sortie du film Président de Lionel Delplanque. Il y a également un gros dossier assez intéressant, même si je ne suis absolument pas fan de James Bond, c'est vrai que ce dossier est intéressant. Il y a en preview prochain film de Jean Dujardin. Ça a l'air assez costaud puisque c'est un polar réalisé par le scénariste de 36 Quai des Orfèvres et ça raconte l'histoire d'un flic incarné par Jean Dujardin qui en se baladant dans un parc avec sa gamine, ben en fait il est obligé de la laisser et lui dire bon tu bouges pas, il voit son indic en fait se faire agresser par des par d'autres mecs, il va aller à la protéger son indic, pendant ce temps sa fille se fait violer et assassiner. Et en fait, tout le film, ça va être une contre-enquête, puisque le coupable idéal a été arrêté. C'est Laurent Lucas, qui a toujours des rôles d'un peu de givré ou de psychopathe ou de gars un peu tordu. Et justement, le film est en fait une contre-enquête où Jean Dujardin va devoir passer outre la colère qu'il avait pour le personnage de Laurent Lucas et essayer d'aller voir, d'aller choper le vrai meurtrier. Ça a l'air assez costaud. Voilà, score. Il y a aussi un dossier sur SPL, la nouvelle bombe du cinéma hongkongais d'action. Numéro 22 de score, c'est cette fois-ci 3,50€, nouvelle formule.
J'ai un message personnel à Christine Yashgemash. Oui, toi, tu disais... Oui, bon, voilà. Borat.
Ah, oh là, oui. Oui, il y a aussi... Il y a Sacha Baron Cohen aussi dedans, dans le magazine. Puisque il y a un dossier sur les zinzins d'Hollywood.
Et il n'est pas franchement d'Hollywood, il est plutôt londonien. Hein. Voilà, il est anglais. Le film sort le 15 novembre, théoriquement. Et c'est assez grandiose. Voilà, je dis ça parce que Christine en est fan. Pauvre du sport. An ever pulsating brain in the center of the universe. C'est toujours The Orb. Et c'était à une époque... le fond sonore d'une émission qui avait lieu le mardi soir, de techno d'ailleurs, dès 92, il arrêtait pas de passer cette boucle, je m'en souviens, et ça fait partie du double album de The Orb, encore une fois, Adventures Beyond the Ultra World. Allez, on va entamer les sorties bande dessinée. Yoko Ano est la créatrice de In the Clothes Named Fat, qui n'est pas un comics mais qui est un manga édité dans la collection Adult Made in Chicana. Noko est une boulimique, une affamée par angoisse qui mange des quantités phénoménales de nourriture, uniquement parce qu'elle est continuellement mal dans sa peau. Faut dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui porte les vêtements qu'on appelle graisse. Et les railleries qu'elle subit depuis toute petite n'ont fait que s'amplifier une fois rentrée dans la vie active comme OL, Office Lady. Oh, en fait, plus vulgairement en japonais, Ocha Lady, ça veut dire que c'est une secrétaire corvéable pour le thé, le fax, et souffre douleur attitrée officielle du sous-chef d'équipe. Plutôt que de se lamenter, ben elle bouffe, et elle continue à grossir. Contrairement à ses collègues fines qui passent leur paix dans leur look, Noko ne vit plus chez ses parents. Elle a un loyer à payer et après, eh ben, elle dilapide son budget en nourriture, encore et toujours manger. Heureusement qu'elle a un homme dans sa vie, Saito. Mais celui-ci est justement convoité par une de ses collègues, Muyima, une vraie peste, qui veut plus que sortir avec le mec donc de Noko, Saito. Elle veut le lui piquer définitivement. Mais que peut aimer Saito chez Noko ? Eh ben, c'est rondeur, justement. Noko apprendra brutalement que son mec sort avec un autre et... Par dépit, eh ben, Noko décide un soir d'appeler une ligne de rencontre. Vous savez, c'est ce genre de ligne de rencontre où les filles appellent pour pas cher
et où les mecs ils appellent des numéros surfacturés.
Non, bon, dans ta ville, tu peux rencontrer des mecs et nanas.
Je vous fais pas la pub.
Si.
Non, mais. Bah, si t'as envie, hein. Toi, tu les connais mieux que moi. C'est comme ça que Noko va sortir un soir, une nuit, avec un vieux. Un vieux vicieux qui va lui laisser une somme rondelette et qui va l'aimer comme femme, justement en tant que femme forte. Qu'en faire ? Peut-être l'occasion de se payer une cure amincissante en cédant au dictat de la fine fille, sans se poser la question d'où vient son mal-être après tout. On avait déjà pu apprécier le style de Moyoko Hano, la dessinatrice, avec Happy Mania, une histoire d'une libraire à la sexualité débridée. Ah, il faut se méfier, à mon avis, de son dessin délicat, parce que In the Cloth's Name of Fat, la radiographie brute d'une société basée sur le paraître et les dominations sociales, les frustrations d'une jeune femme, isolée par son physique et par son poste de travail, carcan d'une société moderne. Moyoko Hano, In the Cloth's Name of Fat, c'est sorti dans la collection Made in chez Kana.
Hey Supergirl, tu sors de ton
Austin Norris
et te déhanches comme une actrice. Ta petite Meniche
Armani
et tout ce qui est le plus sexy. Hey Supergirl, ton rouge à lèvres de
Lancaster
donne à ta belle bouche un mystère que je viendrai bientôt percer. Toi tu y en resteras bouche bée. Tu n'auras plus besoin d'argent ni des vêtements élégants. Il te faudra de la souplesse, de l'audace et de l'adresse, de la tendresse de tigresse. Hey Supergirl, ton make-up de chez
Shiseido,
enveloppe jolie mon tapeau. Ton parfum
or bleu de chez Guerlain
me fera perdre mon latin. Mais cette nuit, pas question de bonne éducation. Il te faudra de la souplesse, de l'audace, de l'adresse, de la tendresse de tigresse.
Stéréo Total qui était en concert au printemps de septembre 2003, si je me souviens bien, c'était un ciné-concert sur un film de Godard qui s'appelait Weekend, assez brutal, assez sauvage et qui est ouais, du sport festime, c'était pas mal. Le film est déjà assez grave. Tu l'avais vu, Duce ?
C'est avec Jean-Yann. Hein.
Oui, exactement.
Ouais, non, enfin, je l'ai vu il y a très longtemps. Quoi.
Ouais, bah le ciné-concert où il reprend les chansons, notamment le flot d'insultes dans le générique. Ils en font une chanson, c'est absolument génial. C'était dans la cour de l'école d'archi à l'époque, si je me souviens bien. On continue, si vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR, et il est midi 19, on continue dans la bande dessinée avec, hop, feuille suivante, avec de la bande dessinée chinoise, s'il vous plaît. Chen Weidong au scénario et Peng Chao au dessin. Il s'agit de Un monde idéal. Chez Chiaopan, on va chroniquer deux albums en fait, les deux premiers albums qui viennent de sortir, L'usine pour le premier et le deuxième s'appelle Le village. Ayu, eh ben, vit de petits boulots comme Caris dans une entreprise de transport, et à 19 ans, eh ben, il habite encore chez ses parents. Enfin, c'est pas vraiment le père qui compte dans sa famille. Mais sa mère, acariâtre, jamais satisfaite et hurlant à tout bout de champ. Le malheur d'Ayou, c'est justement sa déveine, une poisse qui lui colle à la peau. Vraiment une journée de merde, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est aussi sa petite taille qui le font passer pour plus jeune qu'il n'est réellement et qui fait que finalement on le prend pas vraiment au sérieux et ça, ben, ça le déprime encore plus. Et aussi parce qu'il n'a pas encore conclu avec Su Fei, une fille magnifique, qui prend au moins le temps de l'écouter. Et suite à sa dernière catastrophe dans son travail, eh ben, Ayou cherche à voir ailleurs s'il peut réussir, comme Dazi, un camarade de classe qui est forcément maintenant un businessman accompli, quelqu'un d'important qui a réussi, lui au moins, qui est installé dans les quartiers d'affaires au loyer immense. Peut-être qu'il trouvera manière de sortir de sa médiocrité ainsi, ou au moins de sa mauvaise chance. Ouais, peut-être. Sous-titré Les Contes du Villageois Cycle 1, cette série, Un Monde Idéal, éditée au format album, est une preuve supplémentaire de l'incroyable richesse de la bande dessinée chinoise. Oubliez l'aspect fantasy de l'univers, on est vraiment dans la vie quotidienne des jeunes chinois désabusés. Et profitez de la traduction française qui est de très très bon niveau pour plonger dans le désarroi, d'une jeunesse qui ne connaît que des villes qui ont grandi trop vite, sous une croissance effrénée, sans réelle valeur où se tourner. Sinon une ambition forcément déçue. La réussite économique d'un pays est loin d'être synonyme du bonheur de ses habitants, mais le spleen contenu et le terreau d'où poussent parfois de très belles œuvres, comme Un Monde Idéal. Shen Weidong et Pan Chao, c'est le premier tome s'appelle L'Usine, le deuxième s'appelle Le Village et c'est aux éditions Chao Pan. On change d'époque, dis-moi du sport. Toi qui es quelqu'un de lettré, de forcément beaucoup plus cultivé que moi, dis-moi, si je te dis le 30 octobre 1974, à Kinshasa, au Zaïre.
Ah, Rumble in the Jungle.
Eh oui. Et t'as pas lu les fiches en plus, heureusement.
Non, mais bon, ça suffit quoi.
D'ailleurs, une bataille célèbre, le Rumble in the Jungle.
Ouais, non, mais j'ai failli acheter la bande originale du film hier, tu vois. Et puis bon, voilà quoi.
C'est la mythique rencontre entre Mohamed Ali et George Foreman. Mohamed Ali qui n'a été vaincu qu'une fois.
Ouais.
Et Foreman.
C'est aussi la première grosse affaire de Don King, on va dire.
Exact. Et ben, nous sommes quelques mois plus tard à Harlem, à New York. Et à l'époque, très peu de gens avaient pu voir la mythique rencontre. Occasion pour un promoteur de boxe de monter une reconstitution. Pour choisir quel boxeur reprendra le rôle d'Ali sur le ring, un match organisé entre Moshe, un docker, et Kazé, le favori des mafieux frères Duck. Lequel justement achète Moshe pour qu'il se couche. Lennox, trafiquant à la petite semaine, y voit le moyen de se faire de l'oseille en profitant des paris truqués. Il a un autre coup aussi, celui d'intercepter un discret convoi qui visiblement trimballe de la valeur. Ouais, mais bon, il y a des fois, vaut mieux se contenter de peu, parce que s'engager sur plusieurs affaires, c'est le meilleur moyen de les louper toutes, après tout. Cela soit la vieille mamie Acha, voisine du dessous, les sbires des frères de Huck, ou encore les mystérieux convoyeurs nocturnes qui s'apprêtent à dévaliser. Bah pour une petite frappe, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. On s'en fout qu'ils s'en mêlent les pattes d'Ef, et c'est encore plus drôle. Harlem, le premier tome s'appelle Le Guépard Intrépide, c'est scénarisé par Frédéric Brémaux, dessiné par Bruno Duhamel, c'est chez Vent d'Ouest. Et il y a quelques erreurs dans le dessin, notamment une confusion sur les heures. Mais le nombre de références disséminées dans les cases est un vrai bonheur. Des vraies voitures flashy avec de la moquette, des fringues, mais aussi des références au film, notamment de Blaxploitation, parce que ça y va à fond, c'est une BD de Blaxploitation, aux comics, pour ceux qui aiment ça, c'est du bonheur en barre. Ce bouquin est absolument énorme à écouter sur une musique de Lalo Schifrin, un verre de rhum, et c'est du bonheur en barre. Harlem, le premier tome s'appelle Le Guépard Intrépide, c'est chez Vent d'Ouest, c'est de Frédéric Brémaux et Bruno Duhamel. Yeah. Juste deux petites brèves pour vous signaler donc vendredi, excusez-moi, j'ai oublié la date, je crois que c'est le 29, aura lieu une dédicace au Vagin Megastore. Il s'agit d'un dessinateur que j'aime beaucoup, que franchement je trouve très très bon. Il s'agit d'Eric Stalner, puisqu'il dessinera ses deux nouveaux albums, à savoir la liste 666, donc la liste 66, ouais. Excuse-moi, comme la route d'ailleurs, puisque le premier tome commence dans l'Illinois, lui aussi. Et le nouveau tome de son opus, La Croix de Kaznak, on en est au tome numéro 8, je crois, si je me trompe. Voilà, et c'est vendredi prochain, il me semble, à Virgin Megastore à partir de 17h. Changer littéralement d'ambiance, quelque chose qui à mon avis va bien faire peur. Si ça veut bien démarrer s'il vous plaît, merci. On va entamer le cinéma, plus exactement les DVD.
Attends.
Le cinéma vous est présenté en Dolby Mono Surround avec Thomas.
Et si on parlait de David Cronenberg, le cinéaste, il est vachement important en fait, parce que je connais même des directeurs de création qui s'en servent comme référence pour des habillages télé. Donc là, on va parler du DVD History of Violence, qui est dispo en DVD chez Metropolitan Film et Vidéo. Et c'est le dernier opus du cinéaste canadien. C'est avec Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris et William Hurt. Et ça raconte, dans une petite ville de l'Indiana, Tom Stoll désingue deux meurtriers en état de légitime défense. Cet acte de bravoure lui vaut les honneurs de la presse, mais aussi la visite inopinée de mafieux patibulaires qui le prennent pour un des leurs, Joey Cusack. Et dans tout le film, est-ce qu'ils font erreur ou est-ce que c'est vraiment Joey Cusack? Alors,
Fait, c'est un père de famille parfaitement établi.
Ah oui, père de famille, voilà. Tranquille, il tient un café, c'est un gars tout doux.
C'est un gars de chez nous, quoi.
Voilà. Alors par contre, quand on avait déjà chroniqué ce film, ça venait de sortir au cinéma, donc on ne pouvait pas trop en parler. Là, il est sorti en DVD. On va axer la chronique sur autre chose, donc je vais être obligé de spoiler le film. Alerte. Alors le plus intéressant dans les films de Cronenberg, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que Cronenberg au début il voulait devenir écrivain, donc il va utiliser dans toute sa filmographie des traits, des effets de style, mais des ressorts de scénario qui appartiennent au genre littéraire, comme les métaphores par exemple. C'est éblouissant tellement il y a de métaphores dans les films de Cronenberg. T'en as dans Crash, surtout dans Existence avec les poses de bioport. Le commercial, c'est un mec qui s'est jamais fait poser de bioport au début. Il a peur de la pénétration chirurgicale et tout. C'est assez rigolo. Et en fait, dans ce film, dans History of Violence, c'est la même chose. On voit plusieurs indices. On va le dire, en fait c'est Joey Cusack, ils se sont pas gourés les bandits. C'est vraiment un mec qui avait caché sa véritable identité, qui avait changé de vie totalement, qui était avant un tueur. Et là il y a beaucoup d'indices au début du film. Il y a la petite fille qui oh j'ai rêvé de monstre, et là t'as le père qui arrive en premier qui dit non les monstres ça n'existe pas, allez viens. Là après t'as le fils qui arrive et dit non moi je connais un remède contre les monstres, c'est garder la lumière allumée. Après t'as la mère qui arrive, mais non ton père a raison, les monstres ça n'existe pas. C'est d'ailleurs un clin d'œil, elle va aussi protéger son mari devant un shérif insistant ensuite qui dit non, c'est pas du... alors qu'elle connaît sa véritable identité, non, c'est pas du tout Joey Cusack, non, pas du tout. C'est plein de métaphores, c'est assez rigolo déjà de le voir pour la deuxième fois, parce que là tu te rends compte les indices finement distillés par Cronenberg et l'acteur. C'est ça qui est intéressant aussi dans le commentaire de Cronenberg, parce qu'il insiste justement sur les nuances dans l'interprétation de Viggo Mortensen, parce qu'à un moment donné il fait un retour aux sources, il va dans sa ville natale, et là pour nous français on comprend pas la différence, mais il change d'accent. Il prend l'accent de Philadelphie. Mmh. Toute la difficulté justement dans le tournage et dans l'élaboration du film, c'était de donner des indices, mais que ça soit pas trop flagrant, que à certaines mimiques ou certaines phrases que prononçait l'acteur, il laissait augurer qu'il y avait un regard qui changeait ou un geste qui faisait que n'aurait pas fait d'ordinaire Tom Stoll. Et ça qui est vraiment intéressant de toute façon les films de Cronenberg, plus tu les vois et plus tu vois des niveaux de lecture. Ce qui a, je parlais du commentaire, ce qui a de un peu de frustrant, c'est Cronenberg, c'est quelqu'un de très intéressant qui sait parler de ses films et qui est quelqu'un qui a vraiment un discours d'intello, qui sait rationaliser tout ce qu'il fait, mais le commentaire a été enregistré juste après la projection à Cannes, c'est-à-dire que le film venait d'être monté et en fait il a pas vraiment
donc c'était dans l'urgence.
Non, pas trop. Ce qui le côté négatif, c'est que à la fois il a peut-être un peu tout petit peut-être manque de recul. Et il peut pas trop donner d'indices non plus parce que le film vient de sortir et c'est pas comme si le film était devenu un classique 10 ans après où il dit effectivement il y a pas mal de gens qui ont réagi par rapport à ça, la polémique et tout. Il peut pas réagir par rapport à ça. Le commentaire a été enregistré sitôt le film fini. Donc c'est ça qui est un peu dommage, mais Cronenberg de toute façon c'est quelqu'un qui laisse venir le spectateur, qui donne pas beaucoup d'indices, qui par exemple dans Spider il faisait pas de distinction entre ce qui était de l'ordre de fantasme du passé etc, c'était tout sur le même plan, il faisait confiance à l'intelligence du spectateur et là c'est la même chose, il explique pas trop, il dit là j'ai dirigé Viggo Mortensen comme ça, là pourquoi on a fait tel plan séquence, c'est quand même intéressant hein. Mais c'est à nous, aux spectateurs, de découvrir, tiens, dans telle scène, ça veut dire ça. Et après, justement, tu te dis ça à la deuxième vision, et après, quand tu vois le commentaire, effectivement, c'était ça, puisqu'il te dit quand même il te donne quand même quelques solutions. Donc ça, c'est vachement intéressant. À part la version commentée, il y a aussi un making-of très intéressant découpé en chapitres. Alors là, on apprend justement pourquoi ils ont fait un plan séquence, le travail de la décoratrice, puisqu'il y a pas mal de décors en studio avec qui donnent sur la rue, et la rue, c'est aussi factice, c'est un éclairage qui donne une illusion de jour, c'est assez intéressant de voir comment ils travaillent. Tout ce qui est de l'ordre de la prothèse, puisqu'il y a à un moment donné un tueur qui a la mâchoire arrachée ou des enfoncements donnés dans la cloison nasale. Enfin, voilà. voilà. Et aussi, il y a une scène coupée qui voyait Ed Harris, qui était un rêve que faisait Viggo Mortensen, qui dégommait Ed Harris avec la carabine. Et Ed Harris avait les tripes à l'air, un peu à la Scanners, et puis il rigole, je ne suis pas mort, et puis il le flingue. Et Cronenberg, on le voit en train de faire les remarques rigolotes sur le plateau, il dit. Ça me paierait assez de motos référencées. Ah, c'est tentant, mais bon.
Et finalement, c'est bien qu'il ait pas fait ça parce que justement, il n'y a pas toute cette horreur qu'on a retrouvée dans Crash, dans. Tu parlais tout à l'heure de Existence ou encore de Vidéodrome.
Oui, c'est une...
c'est très latent, c'est quelque chose qui va très lentement, jusque dans la scène finale qui est absolument superbe de ce côté-là.
Oui, alors c'est une violence qui dans ces films qui est vraiment cartoon. Et là, la violence, on peut pas dire qu'elle soit quand même latente. C'est une violence qui arrive sans crier gare. Alors que dans les autres films, on sait, c'est vraiment Zarbi de chez Zarbi dans notre début, donc tu t'attends à ce qu'il se passe des trucs comme ça. Et là, on peut pas dire que la violence soit à l'attente parce que t'as les mâchoires arrachées, t'as le mec avec les tripes à l'air et tout, le mec avec un œil qui est parti au fil barbelé. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'il s'est quand même un petit peu retenu. Et puis là, c'est vrai que tu parlais de la scène finale avec son frère complètement. Qui se dit un gangster de haut vol alors qu'en fait c'est un gros incapable, il se fait piger comme un bleu avec il est obligé de prendre les clés pour rentrer chez lui et puis il met le flingue sous son bras et c'est comme ça qu'il se fait buter. D'ailleurs je sais pas si tu t'en souviens mais vraiment dans moi j'étais plié de rire à la première vision et la deuxième vision aussi. Cronenberg soulignait aussi qu'ils avaient fait exprès de foutre un peu de comique là-dedans. Et voilà, ce qui est aussi intéressant par rapport au reste de la filmo de Cronenberg, c'est que d'habitude il écrit toujours des mutations. C'est des mecs qui se font attaquer par un dard, ou un mec avec un accident qui va progressivement basculer vers autre chose, ou qui se fait poser un bioport pour mieux jouer à certains types de manettes un peu organiques. Et là, c'est quand même une mutation, mais c'est à l'envers. C'est-à-dire que c'est un mec qui était un monstre au départ, qui s'inventait une identité propre dans une ville tranquille avec une famille normale, classique et tout, et qui va refaire un retour source vers un statut de monstre qu'il avait abandonné. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et par rapport au changement physique qu'il y a dans ses autres films, ça, c'est plutôt le regard de la famille qui change par rapport à lui. Donc ça, c'est très intéressant. J'encourage déjà...
Ouais. Oui, vas-y.
Alors, j'encourage vraiment les gens qui ont vu le film une première fois au cinéma. Et on est quand même toujours déconcerté quand on découvre un film de Cronenberg, c'est qu'on est surpris vachement par le classicisme de la mise en scène. Mais quand on le revoit ensuite, on se dit putain, le mec, chaque dialogue est pensé, ça renvoie toujours à quelque chose de précis. Et là, quand tu le revois, tu dis c'est pas si classique que ça en fait.
Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'à ce point de ta rubrique, tu n'es toujours pas parlé de la bande dessinée.
Oui. Parce que finalement, en fait, si tu veux, pour ne rien te cacher, j'ai commencé à écrire la chronique ce matin et en fait, je l'ai interrompu.
Et moi aussi, je les ai faites ce matin.
Effectivement, la bande dessinée, c'était tout à fait autre chose et aussi intéressante que le film, même si ça parle d'autre chose.
Qui est traduite en France chez Delcourt.
Oui. C'était une bande dessinée de Vince Locke et Buzz Wagner, il me semble. Oui, et c'était en fait un mec qui avait un passé aussi lié à la mafia, mais qui, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout un tueur à l'origine et qui avait échappé à des tueurs pour se forger une nouvelle vie, une nouvelle identité ailleurs. Et qui est rappelé par son frère qui croyait mort dans la ville de ses origines. Dans le film, ils sont frères, mais son frère est un mafieux qui doit buter. Dans la BD, alors peut-être que vous ne l'avez pas lu, je vais pas spoiler, c'est un peu différent. Il a quand même un frère d'armes, mais on va dire que c'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus très 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 gore. On s'approche vraiment d'une violence à la Berserk. Je sais pas, de Kentaro Miura, c'est vraiment le même type de violence, assez choquant et très 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 gore, à base de membres coupés, etc. C'est vraiment atroce. Voilà, et évidemment, on parlait de la séquence finale, on loue la qualité d'interprétation des comédiens, Viggo Mortensen, on passe de Aragorn à Tom Stoll, qui est tout en dedans. Et on va aussi souligner l'importance de William Hurt, qui est complètement à contre-courant du reste du film, puisqu'il incarne un mec super cartoon, qui est très volubile, qui a une manière de s'exprimer très, qui est très gras comme ça, qui a une présence assez, physique assez importante. Et c'est ça justement qui est important à la fin du film, c'est qu'il fallait que le passé de Tom Stoll soit vraiment vivace et qu'on voit bien à quoi il a échappé. Donc ça, c'est très pertinent, le casting est impeccable. Je finis par les bonus. On a parlé de la version commentée et du making of. On va aussi parler aussi un petit peu rapidement de la présentation du film à Cannes, puisqu'ils étaient suivis par une équipe de tournage qui faisait le making of. C'est assez intéressant aussi, puisqu'on voit toutes les anecdotes rigolotes. Il y a Cronenberg, il arrêtait pas de faire des smacks sur la bouche à Mortensen pendant les projos. Cronenberg a eu l'autorisation exceptionnelle d'aller dans la cabine de projection. Chose qui est absolument interdite à tous les cinéastes, puisqu'il expliquait à 3h du matin, il devait contrôler la qualité de la copie, le son, etc. C'est quand même des trucs qu'on ne te montre pas d'habitude. C'est très intéressant. Et puis on le voit, effectivement, j'avais chroniqué le premier à l'époque. Cronenberg avait été sollicité par le magazine Première français pour faire un reportage photo sur l'aventure à Cannes. Et c'est pour ça qu'il avait toujours un pass de journaliste et avec un appareil photo. Il prenait en photo les séquences de shootage en série, etc. Et là, on le voit, le magazine Première m'a demandé et tout, c'est assez rigolo. Dans History of Violence, c'est un truc un film à découvrir. Au premier abord, on sent vraiment que Cronenberg va vers autre chose depuis Spider, mais pas du tout. History of Violence vraiment s'intègre parfaitement dans sa filmo, et c'est un truc qui m'est vraiment apparu à la deuxième vision. Première vision, je me suis dit, ouais, Cronenberg commence à faire du film d'auteur, pas du tout fantastique et tout, et non, c'est la même chose.
D'accord. Alors,
History of Violence, un film de David Cronenberg qui est sorti l'année dernière, qui est disponible en DVD depuis un petit mois ou un petit mois et demi, chez Metropolitan Film et Vidéo.
Et maintenant, sur le supplément week-end de Radio FMR, va avoir du sport. The Nightmare on Wax, Mission Venice, extrait de l'album Smoker's Delight, que oui, je passe souvent, j'avoue. Oui.
Je me disais aussi.
Ouais, mais c'est pas sur ce fond là que tu le connais en général. Enfin bon, voilà. Du sport. Pardon, excuse-moi.
Yes.
Tu vas bien.
Ouais. Avant de parler de pas beaucoup de. Il n'y a pas de série. Pas de série, c'est vrai. Parlons un petit peu de bande dessinée à la télé. Avec une émission que j'avais déjà vue, sur laquelle j'étais tombé vraiment un petit peu par hasard, parce que c'est pas une chaîne que je regarde trop. Hein.
Oui, je suppose que les débats parlementaires, pas trop.
Non. La chaîne parlementaire Public Sénat, disponible sur la TNT. Hein, donc,
ouais, oui, Canal 13.
Vous pouvez le regarder. Il hein, y a donc cette rubrique, enfin c'est pas une rubrique, hein, parce que bon, c'est carrément un truc qui fait une demi-heure, hein, 25 minutes il me semble. Et ça s'appelle Un monde de bulles, en
ouais,
fait. Hein,
un billet
et...
bimensuel, excusez-moi, bimensuel, deux fois par mois. Et normalement, le format était censé être au début juste de 10-12 minutes. C'était ouais, El Kabash ouais. qui avait initié ça. Ils étaient deux, d'ailleurs. Il y avait Cyril et je sais plus qui, j'ai oublié son nom à l'autre, qui était un journaliste politique, qui était un petit peu largué. Puis finalement, ils ont revivé ça.
Ouais, c'est très très intéressant parce
c'est
que
bien,
bon,
ouais.
Il mène bien sa barque, il arrive à poser des questions intéressantes et intelligentes aux différents dessinateurs, scénaristes qu'il interviewe et pas des moindres hein, quand même. Mais par contre, bon, bah, c'est une diffusion, une multidiffusion un petit peu erratique, on va dire. J'ai cherché dans le programme de toute la semaine prochaine à quelle heure ça pouvait passer et je vous ai trouvé un seul horaire. C'est demain soir à 1h45 du matin sur LCP Public Sénat. Ça doit être rediffusé dans la journée. Moi, j'avais vu une fois un dimanche un petit peu avant midi ou après midi. Donc,
il était question d'un podcast vidéo de certaines émissions justement des chaînes parlementaires. Donc
ouais. Non, mais bon, jetez-y un coup d'œil parce que bon, c'est vraiment une émission très intéressante. Hein. Vraiment, il n'y a pas
bien.
De problème.
Les deux trois premières, ils avaient fait de belles couves, mais franchement, très très bon quoi. Ouais, rien à dire.
Au départ, on peut se dire, il a l'air un peu jeune ce mec pour interviewer des dessinateurs ou des scénaristes qui pourraient être son grand-père quoi, à la limite quoi. Mais bon, il s'en tire vraiment très très bien. Là, vraiment quand même, chapeau, il faut reconnaître. C'est du bon boulot. Non, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et puis, cherchez-moi une autre émission qui parle de BD à la télé. Hein, cherchez-la, moi.
Il y a des chroniques occasionnelles dans des émissions. Mais
c'est meilleur.
Si, il y a Game One qui vient d'en lancer une d'émission. J'ai vu, je l'ai pas encore vu, mais je m'inquiète beaucoup de leur part.
Bon, il faut se méfier de Game One.
Voilà,
il faut se méfier. l'événement, c'est quand même. Prison Break. Alors vous allez me dire, mais il
chaque
se fout de notre
semaine.
Gueule. Mais il se fout de notre gueule. La semaine dernière, il y en avait pas. Bon, il l'a débiné parce qu'il y avait l'OM qui jouait. La semaine d'avant, mais alors il nous a cassé la série comme c'est pas permis, hein, en notant quelques petites incohérences comme ça.
Ouais, le tatouage.
Des trucs pas possibles, hein, vraiment quoi. Et c'est là que j'ai compris un truc à la vision des trois épisodes qui sont passés jeudi dernier, avant-hier. C'est là que j'ai compris un truc. J'ai compris déjà pourquoi. La série qui au départ ne devait faire que 9 épisodes dans la saison, eh ben, a été reconduite pour en faire 22.
C'était,
là j'ai pigé.
C'était 13 et ça a été allongé à 22.
De 13 à 22. Et là j'ai pigé parce que bon bah il y a eu pas mal de téléspectateurs outre-Atlantique qui ont gueulé, qui ont dit ouais merde c'est déjà fini, ça va pas, ça va se finir là. Mais on va rien comprendre, c'est un peu bâtard et tout, il faut en rajouter, allez c'est vachement bien et tout. Le gros succès que ça a eu et donc ils ont décidé d'en retourner et là j'ai pigé parce que bon ben il faut dire que à partir de l'épisode numéro 6 et 7 hein, qui est en fait un épisode au cœur de l'enfer 1 au cœur de l'enfer 2, les traductions françaises des titres sont assez nulles je trouve hein, enfin bon un rapport quand même avec la série mais enfin bon par rapport aux titres originaux ça a rien à voir hein, puisque bon ben ces deux épisodes s'appellent Riots, Drills and the Devil traduit par Au cœur de l'enfer bon on va comprendre en fait c'est la scène où il y a c'est les deux épisodes où il y a l'émeute dans la prison quoi. Et à partir du moment où il commence à avoir l'émeute dans la prison, hein, on peut laisser tomber à la limite les 5 premiers épisodes qui servent uniquement à poser un petit peu les personnages, mais qui a un rythme vraiment très très lent. Hein. C'était annoncé comme une série super speed avec des rebondissements permanents, des trucs, t'arrêtes pas de dire mince alors c'est pas possible et tout. Alors que bon, dans les 5 premiers épisodes, bon. On reste vraiment sur notre fin, il y a pas de problème. À partir du 6e et du 7e épisode, donc au cœur de l'enfer 1 et au cœur de l'enfer 2, alors là ça commence à dépoter à fond les manettes. Et là, ça commence à devenir vraiment très, 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 très intéressant. À noter quand même que il y a quelques petites choses qui m'ont encore un petit peu déplu quand même, hein, c'est dans l'épisode attends voir le 8 ou le 9, hein, le Twinner, un homme hors du commun. Alors là ils ont descendu les deux mecs qui sont dehors, hein, les deux FBI, on va les appeler comme ça, mais enfin bon, les services secrets des États-Unis, ils se présentent comme ça, hein, quand ils ont besoin de rentrer dans un bus avec les flingues à la main, quoi, tu sais, genre service secret des États-Unis. Et donc dans l'épisode, bon bah il dégomme carrément la femme de Lincoln Burrows, de Dominique Purcell, et son mari, enfin son amant, hein, c'est-à-dire le mec qui a remplacé Lincoln puisque bon bah il se trouve au trou et qui va bientôt être passé à la chaise électrique ou je sais pas quoi, enfin bon. Et en fait, c'est parce qu'ils recherchent le fils, ils veulent dégommer le fils qui connaît quelques petites choses, mais ils trouvent pas le fils, donc ils dégomment la femme et tout, et ils commencent à poursuivre le fils qui commence à rentrer en contact via son téléphone portable avec l'ex petite copine de Lincoln qui est avocate et qui a décidé de reprendre l'affaire depuis le début, hein. C'est un petit peu l'histoire qui se passe en dehors de la prison, hein, c'est-à-dire il y a d'une part le complot, d'autre part eh ben, la recherche de la vérité, hein, et il commence à prendre contact au téléphone, et vu qu'il y a une super technologie aux États-Unis, hein, vous le savez tous, ils arrivent évidemment à tracer le gamin, et ils le suivent à la trace sans problème dès qu'il branche son téléphone portable pour dire allô, machin, truc bidule. Le problème, c'est que s'ils arrivent bien à le suivre à la trace et tout, il n'arrive pas à décoder les SMS. Moi, ça m'a paru vachement bizarre parce qu'à un moment, il se dit bon, bah, ok, je téléphone plus, j'envoie un SMS et tout. Là, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à tromper leur poursuivant, il arrive à tromper ses poursuivants et à rejoindre justement la nana qui est avocate par le biais des SMS. Et là, les SMS, ils n'ont pas réussi à les décoder. Alors là, ça me paraît vraiment hyper bizarre quand même, quoi. Parce que bon, bah, les mecs, tu les vois carrément dans leur bagnole avec, tu sais, le petit écran avec le plan modélisé et puis avec le petit bip bip qui se dépasse au fur et à mesure que le téléphone se déplace, tu vois, et mais le SMS non, on sait pas, on n'arrive pas à décoder le SMS, désolé et tout, c'était en panne. Bon, passé ça, je veux dire, c'est vrai que la série commence à prendre vraiment un bon rythme, hein, et que bon bah on sera devant le poste jeudi prochain pour voir la suite, ça sans problème. J'en avais parlé la semaine dernière, hein, c'est de ce hors-série Mad Movie, et justement comme la semaine dernière j'étais encore dans un a priori très négatif à propos de cette série, enfin bon pas très négatif, mais enfin bon je voyais pas ce qu'on y trouvait, avec bien entendu,
de Schwafflera.
L'homme tatoué en couverture, Wentworth Miller, et un numéro Mad Movie hors série, donc c'est le deuxième consacré aux séries, et là carrément ils ont fait les choses bien, hein, chez Mad Movie, ils ont dit bon on va confier ça à des gens responsables, à des gens qui savent de quoi ils parlent.
Alex Masson?
Non, pas du tout. J'ai regardé, il y est pas. C'est non, Alain Carazé qui est, comment ça s'appelle?
Rédacteur
en chef.
Alex Masson, donc, il est chez Score.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc avec lui, il y a également Martin Vinclair qui est de la partie, Jean-Jacques Schleret bien sûr, hein, ça c'est ceux qu'on connaît. Il y a Gage également, hein, qu'on connaît. Et tous les autres, bon, ce sont des chroniqueurs plus ou moins habituels du Mad Movie classique. Dans ce numéro, bien entendu, comme c'est l'homme tatoué en couverture, vous avez plus de la moitié du hors-série qui est consacré à Prison Break, donc, mais un dossier vraiment super complet. Là, c'est vraiment très très agréable, hein. De toute façon, il y a même le plan de la prison, hein, impeccable. Il y a l'interview des personnages principaux, mais tous, hein. Il y a Stacy Keach, il y a John Doe, enfin Dominique Purcell, Wentworth Miller. Il y a aussi l'interview vachement intéressante de T-Bag, hein, qui est le le mec le pourri hein, le méchant quoi, le méchant en prison. Il y a l'interview de Wade Williams qui joue le rôle du patron des matons. T-Bax c'est Robert Knepper donc hein, qui joue le rôle de l'enflure hein, tu sais, le mec qui a un giton toujours accroché à la poche de son truc et qui bon est un violeur en série, enfin bref le pourri quoi. Il y a également l'interview de Amory Nolasco, alors au départ ouais, avec un nom comme ça et tout, on se dit ouais c'est qui ce mec, et en fait bah ouais bah c'est on va dire l'hispano de service hein, dans la série. Et on apprend déjà des trucs vachement intéressants, c'est-à-dire moi il y a un truc qui m'a flashé et qui dans justement le deuxième épisode de l'émeute hein, où Robert Knepper il tient un gardien en otage et en fait il lui pique ses papiers et dans le portefeuille il y a une photo de la fille du gardien pris en otage qui se fait dégommer par la suite d'ailleurs hein, qui se fait dégommer par lui bien entendu, alors que tous les autres ont dit non il faut pas le dégommer et tout, sinon on va avoir plein d'emmerdes et tout quoi. Et en fait il y a une scène qui est absolument hallucinante et qui est vraiment géniale hein, c'est la scène où il est là et puis il commence à lécher la photo la fille et tout, là c'est magnifique, c'est excellent hein, c'est à ce moment que je me suis dit ouais quand même quoi, ça vaut le coup quoi, il y a quand même des trucs assez intéressants dans la série. Il y a également l'interview bah, du un des deux mecs hein, Paula Delshine qui suit tous les gens qui sont à l'extérieur et qui essaierait de connaître la vérité hein, qui est chargé de les dégommer hein, bien entendu. Et ce qu'il y a aussi, faut le dire hein, c'est que pour les gens qui n'aiment pas connaître la fin de l'histoire, qui n'aiment pas connaître le déroulement de l'histoire, qui n'aiment pas les spoilers et tout ça, qui ne lisent jamais les spoilers, il y a des spoilers quand même hein. Il y a le spoiler de Paula Delshine hein, qui concerne son partenaire, donc bon ok je vais pas vous en parler hein, vous vous ferez une idée hein, si vous avez envie de l'acheter, il y a pas de problème. Il coûte quand même relativement cher. Moi, je trouve pour un hors-série 8,50€.
Ah ouf.
C'est un peu chaud quand même. Vois, quoi. Et de toute façon, bon, il y a spoiler de toute façon parce qu'on a le guide des 22 épisodes de la saison 1 plus eh bien preview saison 2. Donc quand ils sont dehors et puis que bah voilà, hein, bah il faut se planquer. Il y a également un interview de faut que je me tire ailleurs, j'ai pas le temps. Tu sais, la chanson du générique de Faf la rage, donc.
Ah oui, bah, je l'ai dit en plus.
Chaque fois, on est mort de rire, chaque fois qu'on entend le truc et tout.
À ce qui paraît des chansons des génériques, parce que Fox avait demandé une version nationale par pays.
Ouais.
Et à ce qui paraît, c'est le préféré du réalisateur.
Ouais, peut-être, mais enfin bon.
Ouais, mais parce qu'il doit pas comprendre les paroles, à mon avis.
Ouais, puis il est pas top dans l'hip-hop, alors quoi, peut-être aussi, quoi. Ensuite, au niveau dossier, bien sûr, c'est un dossier sur les prisons, et donc les séries qui parlent de prison, avec Oz, bien sûr, c'est normal. Il y a également d'autres séries qu'on connaît un petit peu moins, hein, Within These Walls, il y a Bad Girls, il y a les séries d'évasion, hein, parce que bon, c'est pas une série de prison, hein, Prison Break, c'est une série Prison Break, le titre. Prison Break, ça veut dire l'évasion de prison, c'est la sortie de prison, hein, Prison Break, quoi. Ok. Donc il y a aussi des tout sur les séries qui parlent d'évasion, donc Le Comte de Monte Cristo, hein, une série animée, hein, tu te rappelles, hein, et bien entendu Le Prisonnier.
Oui.
Évidemment,
oui.
Évidemment. Un dossier sur les films d'évasion avec une magnifique photo d'un de mes acteurs fétiches. De toute façon.
Moi, en tout cas, il y a un film que j'adore, c'est Les Évadés. Je sais pas si vous l'avez, tu l'as vu,
ça me dit quelque chose,
de ouais. Ouais, avec Tim Robbins et Morgan Freeman.
Ouais, d'accord.
Si,
okay.
Il
ok. Ensuite, on a bien entendu d'autres séries. Il y a 24, il y a Lost.
Non, inévitable.
Inévitable.
J'ai vu qu'il y a Alias aussi.
Alias, oui, puisque la saison 5 démarre.
Ouais.
Et il y a aussi un petit truc sur la nouvelle politique fiction de Canal+. Hein. Il y a également un super article sur The Wire, sur écoute, hein, une excellente série, hein, on n'ira jamais assez, hein, vraiment très très bonne série. Et il y a également ben, les previews sur les nouvelles séries que vous allez pouvoir voir, qui vont démarrer hein, tout au long de la série, mais j'en ai déjà parlé hein, pour la plupart, il y a Vanished, il y a Eureka, il y a Jericho, Kidnapped, Runaway, Traveler and the Nine. Et il y a également un article que j'ai trouvé vraiment super intéressant qui s'appelle Demain, la fin des séries, la fin justifie les moyens.
J'ai vu,
et
ouais.
on nous parle des séries qui ont des fins un petit peu abruptes, des fins, bon, on comprend pas. Par exemple, John Doe, hein, bon, c'est des séries qui en fait se sont arrêtées parce que bon, l'audience n'était pas au bout.
Ah oui, ça a été arrêté par la prod. Hein, voilà,
donc ils ont bricolé vite fait un petit truc pour que ça ait une fin un petit peu cohérente, mais enfin bon, on reste quand même sur notre Christophe Offin. Il y a Harsh Realm, hein, une série dont je parle assez souvent parce que bon, c'est une excellente série initiée par Chris Carter au départ. C'est son premier flop après X-Files. X-Files, il pouvait demander la lune, il l'aurait obtenu sans problème. Eh ben, il a demandé à faire Harsh Realm. Bah, on a
c'est
vu ce que ça a donné.
C'est pas une histoire de simulation guerrière.
C'est ça, c'est
ouais.
ça.
Ouais, elle est pas mal. Hein. C'est
ouais,
dommage.
Ouais, mais c'est vraiment, c'est dommage. Mais enfin, bon, c'était un petit peu quand même. Fallait être dedans. Hein, quand même, quoi.
Il avait fait une série qui se passait dans le futur aussi avec des vaisseaux, je crois. Avec par les scénaristes de X-Files, Glenn Morgan et James Wong, je crois. C'était avec un nom de d'année dans le futur, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, bref, si vous voyez pas, c'est pas grave.
Ouais, ouais. Donc toujours dans cet article, il y a également des séries plus anciennes comme Au cœur du temps, la fin de Au cœur du temps, la fin des envahisseurs, la fin de Twin Peaks. Bon, celle-là, elle est mémorable. Hein, de toute façon, on s'en souvient.
Ah, ça
hein, l'image dans le miroir et tout, quoi. Bon, ça flash quand même. Comme ça, putain, merde. On l'a jamais vu comme ça. Et il y a un truc sur le merchandising des différentes séries dont ils ont parlé. Alors bon,
excellent. Le t-shirt David Palmer.
Excellent. Ouais, non.
Votez David Palmer pour président.
Le mug de Prison Break aussi. Et il y a. Il y a également toute la série des bouquins, hein, l'autobiographie du Special Agent Dale Cooper, c'est Twin Peaks. Et il parle également du bouquin, je vous en ai parlé une fois, c'est le seul truc qu'on peut obtenir officiellement en France de Oz. Hein. Il faut savoir que les 6 saisons n'ont pas encore été diffusées en France, hein, il n'y a pas encore de truc. Si vous voulez les avoir, c'est sorti aux États-Unis, donc il faut passer par les États-Unis pour obtenir les DVD.
Vaut mieux la série d'ailleurs anglaise plutôt qu'éditée aux États-Unis. Non seulement pour les raisons de zone, mais à cause de la bande son originale qui est altérée. Hein. Il faut savoir que les éditions DVD aux États-Unis de séries télé, on enlève les bandes son.
Ouais, et puis les doublages en plus, généralement c'est doublage canadien, quoi. Donc des fois il y a des petites pointes d'accent comme ça, quoi, qui ressortent quand tu prends les trucs américains, quoi. Et il y a et donc sur Oz, en fait, ce qui est sorti, c'est le bouquin qui s'appelle These Walls, The Journal of Augustus Hill, interprété par Harold Perrineau, qui est un bouquin qui raconte un petit peu, de manière tout à fait fictive, bien entendu, eh ben, sa vie dans les murs d'Oz. C'est vraiment très passionnant.
C'est
celui qui est dans le fauteuil roulant, voilà, quoi. Et qui est également dans Lost, hein, qui perd son fils, tu sais, quoi, son fils qui est enlevé par les autres. Et ensuite il revient et puis il dégomme. Bah, oui. Là il a la barbe. Enfin il avait déjà la barbe.
Je savais pas que c'était le même.
Ah, si. Et qui joue dans Matrix aussi, quoi. Dans Matrix Revolution. Si. Et d'ailleurs c'est un petit peu la raison pour laquelle il se fait dégommer à la fin de la saison 5. Il se fait tuer, quoi, à la place d'un autre. Mais bon, ok, quoi. C'est le personnage principal, c'est le narrateur, en fait, hein, de la série Oz. Hein, le mec que tu retrouves toujours dans la cage.
Ouais, et qui fait un slam.
C'est assez zarbi parce qu'on sait qu'il va y avoir une saison 6 qui va être la dernière saison de Oz. Et bon, le narrateur, il se tire à la fin de la saison 5. On se dit, merde, comment ça va le faire? Bah, ils ont trouvé le truc, hein. C'est les autres intervenants, les autres acteurs principaux qui reprennent la relève, bien entendu, dans la saison 6. Voilà, tout ça pour
T'as oublié un truc?
Oui.
À la fin du magazine, il y a le top 10 des morts dans les séries.
Ah oui.
Numéro 1, qui c'est d'après toi, Xavier, puisque du sport.
Attends, dans ce cas-là, on lance le top 5. Ça va être plus simple, non, mais attends, parce que après, des morts célèbres dans les séries, je sais pas.
C'est classé au moins ou non? Je sais plus.
Ça va de 1 à 10.
Hein. Ah, très bien.
Notre top 10, hein, ils le disent. Hein, le top 10
annonce au moins jusqu'au 6. Du 10 au 6.
Alors, du 10 au 6, on a dans MASH le colonel Blake. Ensuite, on a Jonathan Kent dans Smallville.
Ah oui.
Ouais, Ned Fisher dans Six Feet Under, mais ça, fallait s'y attendre. Bobby Ewing dans Dallas, hein, en 7. Et Billy Kakeya dans Battlestar Galactica.
Et après, il en reste 5, et qui dit 5 dit classement, et qui dit classement avec 5 dit
top 5. Numéro 5.
Eh ben, c'est celle dont j'avais parlé, je crois, il y a 15 jours, hein, que Mark Harmon, il est pas content. Et alors, quand il est pas content, Mark Harmon, ça va chier, quoi. Hein, c'est sa collègue, Caitlin Todd, dans NCIS, donc.
Numéro 4.
Alors là, en plus, c'est un spoiler, tu vois. Le docteur Jack Shepard dans Lost.
Oui, mais si tu regardes bien, c'est juste la fin du pilote, hein, puisqu'il a été sauvé in extremis par le producteur.
Ouais. En numéro 3.
Attends, minute.
Numéro 3.
J'en ai parlé juste avant, hein. Augustus Hill, donc, hein, interprété par Harold Perrineau dans Oz.
Numéro 2.
Madeleine Ferguson dans Twin Peaks.
Numéro 1.
Ça, c'est n'importe quoi.
Pourquoi ? C'est énorme ! Ah non, je suis complètement d'accord avec ce classement.
Terry Bauer dans 24 heures.
Bah ouais. Non, c'est énorme. Le décompte qui est silencieux. La fin. Non, non.
Et à la fin, elle meurt. Mais c'est génial. Moi, je suis d'accord avec Thomas. C'est génial. C'était le classement qui était dans le hors-série
Mad Movies.
De Mad Movies.
Mad Movies, série. Spéciale série, donc.
Voilà, avec Prison Break en couverture et établi par la rédaction de Mad Movies.
Alors, encore un petit mot sur Wentworth Miller, hein, donc le personnage principal, Michael Scofield, personnage principal de Prison Break, hein, qu'on peut voir, je vous avais dit qu'il apparaissait dans un épisode de Buffy, The Vampire Slayer, et bah, c'est l'occasion de le revoir justement, la rediffusion de Buffy, c'est sur Série Club, et vendredi prochain à 19h10, épisode de la saison 2 qui s'appelle Les Hommes Poissons, avec...
Je m'en souviens.
Avec Wentworth Miller, donc.
C'est dans les vestiaires d'un club de natation, je crois, il y a des hommes poissons qui mutent en 10 minutes en hommes poissons, en fait.
Ah ouais. Grande soirée nana en perspective.
Alors ce soir, tout le monde à poil. À poil sur Comédie.
Ah bon, je croyais que c'était sur TF1.
Non, sur Comédie, avec cette nouvelle émission, une émission d'info qui est une copie conforme de ce qui a été fait aux États-Unis, au Canada, me semble-t-il. Et en fait, c'est de présenter les infos et un journal.
The Naked News.
The Naked News à poil. Donc là, il s'agit pas de ils vont pas arriver tous à poil et puis bon, ils présentent leur truc et tout, mais c'est plutôt dans le trip un petit peu striptease, lap dance, tu vois, c'est-à-dire bon bah pour aguicher un petit peu. Ça s'appelle Les News, c'est à partir de ce soir, donc 19h40 sur Comédie. Hein, il y a je suis désolé, il y a 7 garçons pour 3 filles, hein. Je suis désolé. Désolé pour vous les gars, hein. Bon bah tant pis, hein. Tant mieux pour les filles pour une fois, hein. D'habitude c'est l'inverse, quoi.
À noter d'ailleurs que dans la version canadienne d'origine, ce sont des gars qui faisaient vraiment leur papier, qui le faisaient, mais vraiment c'était pas mauvais en plus, et qui le présentaient à poil.
Et là c'est des célébrités qui se foutent à poil ou non?
Non, ils ont été castés et tout, c'est des petits jeunes et tout, bien et tout. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur la photo, enfin, je l'ai pas ramené, j'aurais dû vous la ramener. J'ai remarqué que sur la photo des du groupe dans Télécable, il y avait deux grosses poitrines quand même, et une poitrine normale.
Bon, d'accord.
Non, ou alors elles ont des mains vachement petites.
Je suppose que c'est après 22h30.
Non, je te dis, c'est à 19h40 ce soir. C'est samedi à 19h40. Ok.
Je sens qu'on va avoir une alerte CSA.
Voilà. Ah bah écoute, ensuite, dans le monde de la déconne, je vous en ai pas parlé, pourtant ça fait... C'est la deuxième saison que cette émission journalière, hein, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, a lieu de 19h à 20h sur TPS Star, et ça s'appelle le Soiring. Et en fait, c'est quoi? C'est un espèce de talk show, mais un talk show qui est animé par deux ex de la Télouse. Je sais pas si tu te rappelles, la Télouse. Ouais.
Et donc, c'était des mecs de NRJ qui faisaient un talk qui sont toujours
sur NRJ, ouais. D'ailleurs, il me semble. Hein,
non, ils font plus le morning. Hein.
Non, bon, bah ok. Bon,
le morning, maintenant, ils ont foutu un mec à la con, comme d'hab. C'est NRJ.
Ok, et là, je peux vous dire que bon, par moment, bon, c'est un petit peu lourdingue, on va dire, mais vraiment, quoi. L'un des deux est vraiment excellent, hein, c'est un très bon acteur. Il reprend un petit peu, il y a une petite rubrique où il reprend. Alors, bon, il y a un invité, hein, à chaque fois et tout. Il y a des rubriques, il y a des trucs enregistrés, hein, des gags enregistrés, des pastiches, des petites choses comme ça. Et il y a également la rubrique où l'un des deux animateurs refait un petit peu ce que faisait Decon dans Nulle Part Ailleurs, hein, c'est-à-dire se déguiser comme ça et présenter le... faire l'intro, quoi, faire le texte d'intro.
C'était le final qui le faisait déguiser.
Il faisait aussi l'intro.
Il faisait l'intro, mais oui. Il était habillé de manière normale. Oui.
Bah voilà, bon bah ok, c'est vraiment très très bien, hein. Vraiment, il faut y jeter un petit coup d'œil, donc c'est sur TPS Star, tous les jours de la semaine de 19h à 20h de la série. Bon, bah, il y en a quand même. Hein. Écoutez, franchement, quoi, il y en a quand même de quoi vous le plaignez. Avec de la série française, pour l'instant, c'est à l'état de mini-série, hein, et plus si affinité, en fait. Hein, c'est comme ça que ça va marcher. Ça va passer sur France 2 mercredi prochain. Et ça s'appelle l'état de grâce. Haha, le jeu de mots qui tue de l'enfer. Parce que grâce, eh bien, c'est le prénom de la première femme présidente de la République française dans cette fiction initiée par France 2, donc qui sera diffusée à partir de mercredi prochain. Deux épisodes, donc il y a 6 épisodes au total qui ont déjà été tournés. 2 épisodes mercredi prochain, interprétés dans le rôle principal par Anne Consigny, donc hein, qui va expérimenter avant la lettre ce que Ségolène pourrait être.
Non, Arlette.
Ou Arlette.
Liée depuis plus longtemps, mince, elle a plus de chance.
Ouais, si tu le dis, ouais, ok. D'accord, donc c'est mercredi soir, hein, l'état de grâce. À signaler que une autre série concurrente qui a relativement bien marché jusqu'à qu'elle se casse la gueule va prochainement débouler sur M6. Il s'agit de Commander in Chief, c'est également une femme présidente des États-Unis, ouais. Interprétée par Gina Davis.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, puis comme là on a dépassé un petit peu l'heure, eh ben, je vous ai fait un petit programme des films américains qui vont passer à la télé, mais faits par des étrangers.
Ah, pas mal.
Attention, là ça commence à aller très fort dans les classements.
Il y a beaucoup de bouse hein, quand même. Enfin bon, il y a beaucoup de trucs, bon, on s'en passe quoi. Et ça commence demain soir après. CSI saison 6 qui est vraiment de plus en plus intéressante hein. Si les saisons passées étaient un petit peu toujours police procédurale, bon rien à foutre et tout, là ils commencent à s'envoyer des petites vannes et tout. T'as Grissom qui commence à citer des philosophes grecs et
oui,
tout.
Oui,
là ça tue quand même, là ça tue quand même, c'est vraiment très très bien.
Il le faisait déjà auparavant, mais c'était de la littérature anglaise, des classiques, Sylbirton, Shakespeare,
Byron.
Et tout le reste. Byron, pardon, ouais.
Et il nous a cité Oscar Wilde la dernière fois.
Ouais, Oscar Wilde. Et puis, enfin bon, c'est vraiment pas mal, hein, c'est assez rigolo. Et après, à 23h25, il y a bien Air Force One de Wolfgang Petersen.
Allemand. Quel pouce celui-là. Il y a plus de terroristes tués que de gars qui puissent être accueillis dans un avion.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave parce que bon, bah.
C'est l'avion présidentiel.
C'est pas grave. Gary Oldman cabotine vraiment très très bien. Oui. Donc ça vaut le coup. Tu vois ? Donc ça vaut le coup. Voilà. Lundi, on a un film que tu as chroniqué dans cette même émission, Assaut de Jean-François Richet.
Grandiose.
Ouais, sur Canal Plus à 20h50. Et un peu plus tard sur M6. L'ascenseur niveau 2 de Dick Mas qui nous avait fait l'ascenseur qui avait été primé à Avoriaz il y a très longtemps dans une autre vie, hein, dans les années 70 quand ça voulait dire quelque chose d'avoir un prix Avoriaz, le grand prix d'Avoriaz, ça voulait dire quelque chose quoi, tu vois. Et là bon ben il avait tourné aussi Amsterdam Ned après quoi, excellent, vachement rigolo. Et là ben c'est un film assez récent quand même, hein, qu'il a fait aux États-Unis. Casting entièrement outre-Atlantique avec James Marshall, Michael Ironside, Dan Hedaya, Ron Perlman. C'est lundi à 23h20 sur M6, donc l'ascenseur niveau 2. Sinon, il y a également Gothica lundi prochain de Mathieu Kassovitz sur TPS Home Cinéma à 20h45. Et il y a là, c'est je dévie un petit peu parce que si quand même. Hein, au départ, je me suis dit ouais, ça marche, hein, ce film américain, Le Protecteur avec Steven Seagal de 2004 de Pucci Long. Hein, donc il est pas américain, Pucci Long, c'est clair quoi. Il passera sur TF6 lundi prochain à 20h50. Et Steven Seagal, si t'aimes pas ce film parce que bon bah c'est 2004 donc il est un petit peu cassé, il est un petit peu
usé, gros, ouais.
Voilà, et ben tu préféreras quand même Échec et mort de Bruce Malmuth en 90. Ah ouais, là c'est autre chose avec Kelly LeBrock et Bill Sadler. Ça c'est diffusé lundi prochain sur la chaîne Action, donc pratiquement en même temps que Le Protecteur à 20h40. Mardi, j'ai repéré qu'un seul film, mais c'est un gros classique du cinéma. Hein, tellement un gros classique que maintenant bon bah on commence justement, il commence à avoir des petites références dans d'autres films et tout quoi. Thelma et Louise de Ridley Scott
sur anglais.
Cinéma émotion à 22h50 mercredi, il y a pas de cinéma parce qu'il faut aller au cinéma voir les sorties. Hein, t'as vu, hein. Merci les gars pour les places gratuites. Jeudi, un aller pour l'enfer. Encore un Steven Seagal très récent, 2003, de Chung Siu Tung. Alors là, quand même, Chung Siu Tung.
Hein,
Hein, attention.
C'est pas possible.
Je t'avais dit que Steven Seagal, c'était pas forcément du direct ou vidéo.
Mais si tu veux, Xavier Shin Soo-tung, c'est quand même un des chorégraphes emblématiques du cinéma au Congo.
Oui, je sais.
Et ouais, les scènes d'arts martiaux dans Matrix, tu vois. Alors moi, c'est une scène pourrie, mais bon.
Non, c'est Yuen Woo-ping, ça.
Ah, Yuen Woo-ping, pardon.
Shin Soo-tung, il avait fait Combat de Maître 2.
Ouais. Puis bon, laisse tomber tout le reste, quoi. Ça, c'est sur Canal Plus décalé, donc à 20h40. Il y a également Duel dans le Pacifique, ça c'est un gros classique, ça c'est vraiment un film à voir, ça rappelle Lost mais en vachement mieux. C'est un film de John Boorman qui est anglais, hein, c'est bien ça. Hein, avec il y a que deux acteurs dans le film, et Lee Marvin et Toshiro Mifune. En fait, c'est ça se passe sur une île en 1944, une île du Pacifique, et il y a un Américain et un Japonais qui se retrouvent échoués sur l'île parce que après les combats, et donc ils vont devoir cohabiter. Au départ, ils se tapent sur la gueule, bien sûr, c'est normal, parce qu'ils sont ennemis, hein. Et ensuite, ils vont devoir cohabiter parce qu'ils sont tout seuls, quoi. Enfin, ils croient. Comme dans Lost, tu vois. Mais vraiment très très bien, hein. Duel dans le Pacifique, donc jeudi prochain sur TPS Cinétoile à 21h. Sinon jeudi, il y a encore une bouse de Ridley Scott. Il a fait des bouses, ce mec.
Ah oui, plein.
Ah ouais, celle-là elle est bonne.
Alors c'est quoi, J.J.?
Arms égales.
Ah, J.J.
G.I. Jane sur TF6 à 20h50. Et donc vous préférerez certainement dans la série les téléfilms britanniques du jeudi sur 13e rue. Eh ben Monroe, le passé pour cible, encore du téléfilm britannique très récent, 2005, donc l'année dernière, avec dans le rôle principal un mec que moi j'adore, Robert Carlyle. Ah oui. Y a Dan Almoes, il y a Claire Skinner et Robert Glenister, l'histoire d'un enquêteur, bien sûr, c'est des polars, hein, généralement. T'as vu John Hannah, hein, jeudi dernier là, oh là là, il a pris coup de vieux quand même, quoi. John Hannah, dans le téléfilm britannique du jeudi sur 13e rue, quoi.
D'accord. Voilà.
Ah bah non, ouais, tu regardais Prison Break, je suis désolé.
Bah non, j'ai pas le câble.
Il a même pas la TNT.
Bah Prison Break, c'est sur
M6. Oui, c'est vrai.
Donc c'est l'histoire d'un inspecteur, hein, qui va être confronté à différents meurtres et il va se rendre compte que ces meurtres, eh bien, sont liés à son passé. Merde, c'est con ça. Et en même temps, pratiquement, c'est sur la chaîne Histoire. Et là, c'est pareil, c'est un film américain fait par un Anglais, Spartacus de Stanley Kubrick, version longue, donc la vraie version. Hein, qui fait un peu plus de 3 heures quand même.
Eh ben, je vais te contredire parce que Stanley Kubrick était américain, même s'il a vécu l'essentiel de sa vie en Angleterre.
Ah zut alors. Merci, je savais que j'allais avoir une plantade. Du Ridley Scott, il y en a encore vendredi prochain. Kingdom of Heaven, ça c'est le plus récent, je crois, de lui. Hein. Avec Orlando Bloom, avec Jeremy Irons, avec Liam Neeson. Enfin,
excellent.
Donc, à part Orlando Bloom, tous les autres, c'est pas des Américains.
Il est pas mal dans le film. Hein. Et surtout, il y a Edward Norton en chef lépreux sous un masque, qu'on voit à un moment donné. Il est très bien dans ce film.
C'est sur Canal. Alors, la chaîne sur laquelle est diffusé ce film, c'est un petit peu incongru, on va dire, puisqu'il s'agit de Canal Plus Sport. Vendredi prochain à 22h40 après le match. Sinon, rappelez-vous, ça fait 40 ans.
Bonjour, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Dans quelques instants, la suite de nos programmes, momentanément interrompus par une crise de fou rire.
Ça fait 40 ans, hein. Toutes les semaines, je vais vous le faire. 40 ans de Star Trek. Avec vendredi prochain, eh bien la suite, hein, encore la suite avec Star Trek Insurrection, encore un Jonathan Frakes, donc avec l'équipe de Next Generation et tout, où tu croyais que le Capitaine Picard, il était un petit peu mou du genou comme ça, c'est pour ça qu'il est patron, hein, d'ailleurs du New Enterprise, hein, en fait, dans ce film, tu te rends compte que le mec, il dégomme, il manie le gun et tout, tu vois, genre Show Yun Fat, quoi, pratiquement, quoi.
C'est pas celui où il y a les Borg.
Non, celui où il y a les Borg, c'est First Contact.
Non, mais c'est pas celui-là où l'Enterprise se fait envahir par les Borg.
Insurrection, c'est celui où il y a une planète qui menace de se faire dégommer et ils sont là et ils vont les secourir, voilà.
Ouais. Non, mais il faut un minimum de discours technique pour que Thomas arrête de rire sur Canal Plus.
Voilà. Et sinon, on parlait d'Alias.
T'as un micro vert. Hein.
Moi, Star Trek.
Ouais, mais c'est pour ça. Mais t'as un micro vert comme Canal Plus Sport.
Ah, d'accord.
Sinon, Alias, on en parlait avant, par le biais du hors-série Man Movie, ça redémarre donc avec la saison 5 sur Teva. Et j'ai pas noté le jour, donc c'est un peu con, quoi. Mais trois épisodes, donc je crois que c'est jeudi prochain, quoi, sur Teva, les trois premiers épisodes de la nouvelle saison de Alias, saison 5, avec Elodie
Bouchèze.
Non, on dit Boucher, quoi.
Boucher. Voilà. Et l'ancienne saison, là, ça finissait par un cliffhanger où Michael Vaughn révélait à Sidney qu'il ne s'appelait pas Michael Vaughn, et là, accident. Et ça finit comme ça.
Ah mince.
Accident de bagnole.
Mince alors.
Que c'est que t'aimes pas, Alias, toi?
Je m'en voilà. Je tasse les feuilles.
Faut que je me tire ailleurs.
Et j'appuie sur départ.
Pas le temps. Faut que je me tire ailleurs.
C'était le supplément week-end, émission numéro oula, je ne sais plus combien, du samedi 23 septembre 2006, qui devait être consacré évidemment au printemps de septembre, mais bon, on n'a pas pu, voilà, on regrette, mais on fait, hein. On va faire un tour. On va faire un tour là avec nos micros, nos appareils photo et tout ça. On va vous faire quelque chose de soigné pour la prochaine fois.
On va essayer.
Ce serait dommage de ne pas le faire après tout. Thomas, dis-moi un peu, tu nous faire le résumé de l'émission, je te prie.
Bah, ça a été vachement rempli comme émission, donc j'ai pas eu le temps de noter. Mais
j'ai halluciné, il est seulement 13h16. Hein.
Ouais. Et donc on a eu, comme d'habitude, de la BD, une introduction assez customisée pour l'événement des 5 ans d'AZF. On a eu du Manouviz spécial série en long et en large. On a eu un top 5 sur les morts dans les séries télé. Des films américains réalisés par des étrangers et du Cronenberg en DVD.
Voilà, à défaut de vous annoncer la suite des programmes après du sport, juste pour vous dire que donc Eric Stallner sera en dédicace chez le Mega Virgin Superstore vendredi prochain à partir de 17h pour la Croix de Kaznak numéro 8 et la liste 66 qui est une nouvelle série chez Dargo tome 1. Les émissions de Supplément Week-end sont réécoutables sur notre podcast. Vous cherchez Supplément Week-end MP3 ou FMR et normalement vous tombez dessus. Vous pouvez vous y abonner d'ailleurs ou les réécouter, les anciennes émissions. C'est ça qui est génial. Mais de suite c'est du sport et ça c'est encore mieux. Voilà, allez, see you, ciao, rendez-vous la semaine prochaine.
Ciao.